Donc Marie va assurer la traduction pour vous éviter mon accent déplorable et ma pratique de l'anglais qui ne l'est pas moins. Donc je suis très heureuse, très honorée, très flattée d'accueillir donc Camille et Margaret pour la première fois à Bordeaux. Je vous remercie à vous d'être venus si nombreux, fidèles au rendez-vous, patients. C'est la première fois que je vois une salle aussi excitée et vibrante. Je sens que voilà, vous êtes dans l'attente, donc on va essayer de vous faire plaisir. Donc nous sommes devant un public de fans, absolu, je pense. Et j'en suis une aussi, malgré mon grand âge. Donc je vous propose de nous raconter un petit peu l'histoire de cette extraordinaire aventure que vous avez vécue, qui est pour moi like a fairy tale.
So she wants to know a little bit more about the whole adventure, which is for her like a fairy tale, because she's a huge fan.
How the books or about the books or the movie?
The whole adventure.
Oh, the whole adventure.
Votre rencontre, comment le projet est né?
How did you meet? How the project was born?
Okay, I'm Margaret, the big one. And this is Cammy, the petit. And we are very happy to be here. We love our French readers the most. You know that you are the best, right? Oui. Vous savez. We also particularly love 16 moons. 16 lunes. Does anyone know why? Do you know why this is our favorite of the Beautiful Creatures books? Because the title is the right title. Because this was our original title in the United States. You know this, some of you have heard this. And they made us change it. So we always love coming to France where they have the right title of the books.
Donc, comme vous l'avez compris, c'est Margaret. Et donc à côté d'elle, Camille. Donc elle a dit que c'était la grande et qu'il y avait la petite. Bon, ça, vous l'avez compris. Elles sont très, très contentes d'être en France parce que les fans français, ce sont leurs préférés. Ce sont ceux qu'elles ont le plus suivis. Et elles aiment particulièrement les fans français et la France parce qu'on est les seuls à avoir gardé le titre original, 16 lunes, qui était le vrai titre de la série et que les Américains leur ont demandé de changer pour ce qui est devenu Sublime Créature.
Oui. You want to tell our story?
We met when I was... I don't know how many years ago, many, many years ago, when I taught Margaret's youngest daughter in third grade, and her daughter's in college now, that daughter. Yes. I taught all three of her daughters. I was a teacher for 17
she
years.
She was a prof.
And so
she
that's
was
how...
mean prof.
And that's how we became friends, and I taught fantasy book groups, like a book club like you have. I taught book clubs for... junior high and teenagers about like 12 to 15, 16 years old. And we would read fantasy books and talk about them. And we read Twilight and we read Lord of the Rings and we read all these books. And then there were mostly girls. There were five girls and then two boys. And they were talking about the fact that they were kind of tired of the things that they were reading. It was all starting to seem the same. This was before Hunger Games came out or anything like that. And they said, we're tired of vampires. Everyone writes books about vampires. We want something different. And
give her a chance.
Go ahead.
No, we have great memories.
She knows it already.
Donc en fait, elles se sont rencontrées quand Camille était la professeure de la plus jeune des filles de Margaret. En fait, elle avait monté un club de lecture où ils lisaient de la fantasy et de la littérature jeunes adultes. Elle est incapable de vous dire combien d'années c'était, mais apparemment, c'était quand même avant Hunger Games. Et donc, ils ont lu Twilight, Le Seigneur des Anneaux, tous ces livres un peu cultes. Mais les jeunes commençaient à dire « Oui, on en a marre, on lit toujours la même chose, c'est toujours les vampires. »
Ok.
Go ahead.
So the teens, my daughters and their friends gave, and Camille's sister, gave us some rules of what they wanted a book to be like. Do any of you know this story already?
I'm
Have
sure
any,
didn't.
Do you know, do any of, no? No, no one knows this story. Okay.
So they don't want to admit
they gave us a few rules. They said, no vampires. Pas de vampires. Et c'est fini. They said, pas de loup-garou. Non. Fini. They said, they were tired of what they said, a whiny girl telling the story. They said, we want a boy, something totally different. And they said, all these books are starting to seem the same. So make it not generic, make it really different. So we said, we can do that. I mean, I had been writing video games, jeux vidéo, and Cami loved comic books and graphic novels. And so we had both wanted to write something, but hadn't found how to do it yet.
Alors en fait, du coup, les jeunes sont venus les voir, surtout donc la fille de Margaret et la sœur de Camille. Elles leur ont dit, voilà, on va vous donner des règles pour un bon livre. Et donc, pas de vampires, pas de loups-garous, pas de filles qui pleurent, qui racontent l'histoire sur un ton pleurnichard, parce que ben, ça, elles voulaient des garçons. Et pas quelque chose qu'elles aient déjà lu, pas générique. Elles voulaient vraiment quelque chose de différent. Et donc, Margaret et Camille se sont dit, bah, on peut le faire, c'est facile. Surtout que Margaret écrivait des scénarios de jeux vidéo. Donc, elle savait écrire. Camille était une grande fan de comics et de romans graphiques. Donc, elles se sont dit qu'elles en étaient capables.
So we went to lunch, which is what we like to do, is mostly eat. And we went to lunch, and we came up with an idea. We said we would have a boy would tell the story, and the girl would be the powerful supernatural, and we would come up with our own kind of supernaturals. And we wanted them to be, we liked witches, but we didn't like the fact that, you know, witches usually all have, like, the same powers, which is kind of boring. So our idea was more of, like, a combination of, like, witches and the X-Men, where, like, all the witches can do some things and have to follow some rules, but then each type of, you know, caster has a different type of power. And we decided to set it in the American South. Because it is a, if you have seen the movie, that gives you a good idea of what it looks like. There's, you know, a lot of old houses and graveyards, and it's kind of spooky, and people are very superstitious there. So it feels like a magical place, kind of.
Alors, elles sont allées déjeuner ensemble, parce que tant qu'à faire, autant bien manger. Et donc, elles ont décidé que ce serait...
And Coca Light,
yes.
Ah. Et elles ont bu du Coca Light. Attention, précision.
Ah, Americans.
Avec une pizza?
Non. Mexican. Tacos. It's California.
Bon, j'ai pas besoin de traduire.
But I could live on pizza.
Mais bon, Camille peut se nourrir exclusivement de pizza, comme à peu près tout le monde ici,
non,
je
non,
pense.
C'est vrai.
Love pizza.
Pas une blague. C'est la vérité.
And you have good pizza here, I have already tried it.
Donc apparemment, les pizzas françaises tiennent les américaines. Donc elles ont pris leur déjeuner mexicain avec leur Coca Light et elles ont décidé qu'elles allaient écrire une histoire donc qui serait racontée par un garçon. Donc ça, qu'elles allaient créer, que ce serait la fille qui aurait les pouvoirs un peu surnaturels, mais elles aimaient bien l'idée d'une sorcière, mais elles ne voulaient pas que ce soit la sorcière qui a les mêmes pouvoirs que tout le monde et que toutes les sorcières aient les mêmes pouvoirs. Et donc, elles ont créé le système des enchanteurs où chacun a un pouvoir différent. Donc, c'est un peu sorcière plus X-Men égale enchanteur. Et donc, en plus de ça, elles se sont dit qu'elles allaient situer l'action dans l'Amérique du Sud, dans les États du Sud, parce que, si certains ont vu le film, il y a quand même une ambiance très particulière avec des vieilles maisons, il y a les bayous, il y a des cimetières, et les gens là-bas sont très superstitieux, donc c'est un bon terrain pour tout ce qui est supernaturel.
Is there a region of France that's like that, that's sort of the magic region?
Est-ce qu'il y a une région de France qui a cette réputation magique?
Oui.
La Bretagne,
like Brittany.
My.
You are enchanté.
Moi, je suis originaire d'une région du centre de la France qui s'appelle le Berry. Mm-hmm. Et c'est une région traditionnellement de sorcières.
Oh.
Donc,
that's your magic.
Attention, peut-être.
So be careful with witches, because in Berry they know what they're talking about.
Nice.
And then Brittany has also a reputation of, you know, the Arthur and the Grove.
Yeah,
yeah,
yes.
Everything
yes.
that takes place in Brittany.
Right. I think that's on the coast, right?
It's on the west coast.
I think
a little bit northern.
I think part of the south was where all the ships would come in, and I think there's sort of the strange things would roll in like the fog from the sea.
Exactly.
And I think there's sort of a connection there.
That's it. So, donc d'après Margaret, en fait, si les régions comme ça sont un peu magiques, c'est que la Bretagne, comme les États du Sud, sont là où il y a les bateaux qui arrivent, et donc c'est de là que la magie se répand à travers tout le continent.
Yeah. So after lunch, when we had cooked up this plan for this magic in the south of the United States with a powerful girl and a who could do more than just fall in love, I went home to my three daughters. Two of them were les ados. And I said, your teacher and I are going to write a book. We're going to write a book. And they went, and I said, no, really, that's pas un vlog. And they said, you're not going to write a book, mama. And I said, why not? And they said, because you don't finish anything. In 3 days, you'll be doing something else. And I said, oh, it's on. This will happen. There will be a book. And then I called Cami and said, we're writing a book. And she said, of course we are. And that was that. We started writing a book.
Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir faire l'imitation du rire aussi bien. Donc, Margaret, après le super déjeuner où elles ont fait leur plan machiavélique de fille super, super forte qui ne fait pas que tomber amoureuse, rentre à la maison et elle dit à ses trois filles, dont deux sont ados, « Les filles, moi et votre prof, on va écrire un livre. » Et là, les deux ados l'ont regardé et se sont mis à rire. Vous avez compris. Yeah, you do it. Se sont mis à rire. Et donc là, Margaret a non, mais c'est pas une blague, on va vraiment le faire. Et les filles continuent à rire. Mais non, mais maman, tu finis jamais rien. Dans 3 jours, tu seras passée à autre chose. C'est sûr que tu finiras pas. Et donc là, Margaret a dit, OK, challenge accepté. Et donc elle a appelé Camille, elle a dit, on va écrire un livre. Et Camille, qui n'avait pas suivi, était là, bah oui, bien sûr qu'on va écrire un livre.
Yeah.
So I'll kill two birds with one stone. So the way we write is we came up with kind of an idea, and Margie likes to write on those whiteboards like you have at school with the markers, the colored markers. So we came up with like a big idea and wrote all over the board, and then we each would write like a chapter, and then we trade. And so I would give Margie my chapter, and she would like cut, she would take a lot, all the words out that were bad, and she would write new stuff and totally change it. And I would do the same thing with hers, and we would pass them back and forth, and then we would give them to the teenagers, to the group, the seven kids, and let them read it. And they, so basically in the beginning, they pretended like it wasn't that interesting, but they kept asking us for more pages. So we knew they liked it. And we ended up giving them in the beginning, like every 2 days we would give them chapters. And then they would say like, no, we need a chapter every day. Like in when we get home from school. So then like every night we were writing to give them a new chapter.
Donc, elles ont mis au point un super système. Elles avaient donc un tableau blanc pour marqueurs, donc comme ceux que vous avez à l'école, ou sur lesquels elles ont marqué leurs grosses idées. Et après, elles ont décidé qu'elles allaient s'échanger les chapitres. C'est-à-dire qu'il y en a une qui allait écrire un chapitre, puis le donner à l'autre qui allait le corriger. Donc, par exemple, Camille écrit, Margaret le corrige, elle enlève tout ce qui lui paraît pas bien, elle réécrit certaines parties, elle coupe. Et puis pareil, Margaret va écrire un chapitre qu'elle donne à Camille qui fait le même travail. Et après, il donnait ses chapitres au groupe de lecture dont on a parlé un peu plus tôt, donc 5 filles, 2 garçons, qui au début de là, oui, non, c'est pas très intéressant, mais bon, qui mine de rien continuaient à dire, allez, le prochain chapitre. Mm-hmm. Au début, elle leur donnait des chapitres tous les 2 jours, puis mm-hmm. bon, ben, ça lui plaisait pas, mais quand même un chapitre tous les jours, c'est mieux. Mm-hmm. Donc elle leur en donnait un chapitre tous les jours. Et donc, toutes les nuits, elle devait écrire, se corriger et donner mm-hmm. au groupe de lecture.
It started to get passed around virally on the internet, from our kids' friends to their friends to their friends. And about 2 or 3 weeks into the process, when I got a text at 1 a.m. from a girl I didn't know who didn't live in our city, I thought, Joyce was her name, Joyce. I thought, we're going to have to finish this. Because there were all these kids waiting to hear the story. And at that time, we were not writing a book. We didn't have a plan to sell the book. We were writing a story for 7 people. And I think it's easier to write when you know who you're writing for. So we were just writing to finish it for these kids. So it took us 12 weeks to the day we finished. We had a 600-page book. And at the end of the bet, everyone says, what did you win? And the only thing we won was we made my daughter cry. We said, yes, we make children cry. And then we had written a book. We win.
Donc en fait, ça a commencé à se diffuser viralement sur Internet. Donc c'est d'abord les groupes de lecture qui l'a passé à leurs amis, Et puis un jour, Margaret a reçu un texto à 1h du matin d'une fille qu'elle ne connaissait pas, qui ne vivait pas dans leur ville, qui s'appelait Joyce. Et là, elle s'est dit, ah, on va peut-être devoir finir notre livre. Donc ça rajoutait un peu de pression. Et du coup, jusque-là, elles écrivaient une histoire pour le groupe de lecture, pour les 7. C'était juste une histoire, ça n'avait pas le projet d'être un livre. Mais comme elles savaient pour qui elles écrivaient, qu'il y avait des gens qui étaient en attente, elles ont terminé le livre. Et à la fin, donc, ça fait un livre de 600 pages qu'elles ont fait en 12 semaines.
So, then we realized there were a lot of other kids that wanted to read the book, maybe that, you know, weren't friends with them or they had only read part of it. So we came up with this really good idea. We're going to make Margie's sister-in-law build a website because she was a web designer before she had kids. And then we were going to put it up online. We're going to make like a website for it, but we weren't going to sell it. There wasn't like an ebook. There weren't even, I mean, like ebooks weren't like a big thing then. So we were just going to put it up online for people to read. So, Margie's very good friend from high school is a published author. He writes for younger kids. He writes the name of this book is Secret.
Do you guys have that here?
Pseudonymous Bosch?
I'm not sure.
And so he said that's a very stupid idea. And he sent the book. We didn't know, but we gave it to him to read, and he liked it. And he sent it to his editor in New York without telling us.
His agent, without telling us.
And then she called Margie to tell her how much she liked the book, which is how we got an agent. So we weren't really, I mean, it's not, you know, it was a lot of good luck because it's not usually how it happens.
Alors, donc ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que la seule chose qu'elles avaient gagnée dans leur pari, c'est qu'elles avaient fait pleurer la fille de Maggie. Donc ça, elles étaient très contentes. Oui, on avait. Et du coup, après, elles se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce livre? Et là, elles se sont dit qu'elles allaient créer un site internet. Donc c'est la belle-sœur de Margaret qui a créé le site. Et elles allaient mettre l'histoire en ligne gratuitement. C'était même pas un e-book parce qu'à l'époque, c'était vraiment le tout début, donc personne n'était vraiment intéressé. Et un des meilleurs amis de Margaret, qui est un éditeur publié aux États-Unis, très connu pour les enfants, leur a dit « Non mais attendez, c'est une idée, c'est nul comme idée, c'est terrible. » Et lui, il avait lu le livre, ça lui avait plu, donc il l'avait passé à son agent sans leur dire. Tout ça, ça s'est fait quand même... Et l'agent, ça lui a plu, elle les a appelés et elle a dit ben, « Je veux être votre agent aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Et c'est au final beaucoup de chance parce que ce n'était pas du tout ce qu'elles avaient prévu. Et ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, je tiens à le préciser. Mais ça a marché.
Ben, everything happened very quickly like a snowball. Like it got bigger and bigger. So soon we were publishing it. There was an auction. We sold it to a big publishing house in the United States, Hachette Jeunesse in France. Before it came out, it was it already sold to 28 countries. Right now it's in 64 countries around the world. It's a number one New York Times bestseller. It was the teen book of the year. I mean, it got bigger and bigger and bigger really, really quickly. And we didn't know what we were doing, actually. And we never knew what we were doing for any of the process. So our readers, our French readers and our readers in the United States, I would probably say those most of all, became very important to us because we got sort of intimidated by all the things that were happening. And I think because we wrote the book originally for the teens, we stay really close to our readers because that's like you remind us of the 7 kids we wrote the book for. They're just more of you now. And this is the part we're comfortable with. And the movie was crazy. You know, all the travel is crazy. The bestseller stuff in the news is crazy. But this part we really like.
Et donc, à partir de là, ça a fait un peu effet boule de neige. Hein, tout est devenu de plus en plus grand, c'est allé de plus en plus vite. Avant même que le livre soit sorti, il était vendu dans 28 pays. Aujourd'hui, il est vendu dans 64 pays. C'est devenu le livre pour ados de l'année. C'est devenu le numéro 1 de New York Times. Enfin, ça a été énorme. Et finalement, il y a eu maintenant le film. Il y a eu plein de gros événements autour du livre. Mais elle, tout ça, ça les a un peu... Elles étaient un peu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est grand. Et heureusement, il y a les fans, donc surtout les fans américains et français, qui leur rappellent les 7 ados pour qui elles avaient écrit au départ et qui sont vraiment la partie du travail avec laquelle elles se sentent à l'aise. Parce que bon, tout l'autre côté showbiz, c'est beaucoup. Mais les ados et les fans, ça leur plaît beaucoup.
So, there you go. Oh, merci. If you have any specific questions you want to ask us, we'd love to talk specifically, or if you have more, before we have the dedicas. Yeah.
So you want to... After.
After. So we sign now? Or...
Comment vous envisagez la suite? Je sais que vous avez 2 projets, mais plus en duo, mais en individuel. Comment maintenant vous... Est-ce que vous imaginez d'ailleurs retravailler ensemble pour un projet futur? Donc il y a un titre qui va sortir bientôt en fin d'année chez Black Moon en France, et le vôtre, Camille, l'année prochaine. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Parce que je crois que c'est pas la peine qu'on parle de Sublime Créature, ils connaissent par cœur, certains qui ne l'a pas lu. Merci. Donc certains ne sont pas encore arrivés aux 19 lunes, mais en tout cas, bon, ils connaissent la série. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de ça, donc de vos projets. Et puis aussi, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect historique, moi, qui m'a complètement fascinée. Parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a une littérature gothique du Sud. Oui. C'est presque un genre littéraire. Genre, voilà. Ouais. Et chez nous, évidemment, ça nous est complètement étranger. Et ça donne cette originalité qu'on a tous aimé, je trouve. Il y a l'histoire d'amour, il y a la magie. Mais il y a ça aussi qui donne une teinte particulière.
Yeah.
Okay, we're going to make it 2 questions. and we'll start with the last one. So she wants to know a little bit more about the South Gothic mm-hmm. style, because we don't really have it here in France. Mm-hmm. And so we won't go along with the whole Beautiful Creature saga, because everyone knows about it and everyone has mm-hmm. read it. So, but what it is exactly is this South Gothic style?
Southern Gothic... was really, I think it was in, God, I think I'm trying to think of like the first Southern Gothics. Southern Gothic is really a genre that takes place in the American South, and it's generally has kind of frightening elements, even if it's not supernatural. Like if it's about for example, Gone with the Wind is a very famous Southern Gothic, and it's about, you know, Scarlett O'Hara, and they're burning her house, and you know, and there's all this family history. They talk about a lot of generations of people in Southern Gothic, so you talk about like a lot of the family, like generations of people. You usually have frightening elements, sometimes supernatural, and
a mystery,
and yeah, generally a mystery, not in so much in Gone with the Wind though. Mm-hmm. Sometimes it has a mystery, but what it really is about is kind of a lot, like a big tale, an epic story that spans a lot of generations. And there's usually, there's very few Southern Gothics that don't have a little bit of history in it. Sometimes they make up the history though, but it can be made up, but they usually have like a weird feeling of history that goes with the, you know, mm-hmm. with the story.
So that would also be Anne Rice, Interview with a Vampire. It would be Sookie Stackhouse and the True Blood. Those kind of the ones you've seen.
Alors, le genre gothique sud, en fait, sans le savoir, on le connaît, comme quoi. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont représentatifs. C'est qu'à chaque fois, il y a un élément de génération. C'est des histoires qui courent sur plusieurs générations, donc ça se passe. Il y a toujours un élément un peu effrayant, pas forcément surnaturel, mais effrayant. Donc, le premier exemple que Camille a utilisé, c'est « Autant n'emporte le vent », où... on lui brûle sa maison quand même, donc c'est pas très cool. Ça peut aussi être donc surnaturel, comme Entretien avec un vampire de Anne Rice, que vous avez peut-être vu ou lu. True Blood, Sookie Stackhouse, c'est quand même complètement flippant. Donc il y a ça, il y a aussi une notion de mystère, donc une enquête à résoudre. Donc c'est pas forcément le cas dans Autant en emporte le vent, mais il y a ça, parce que c'est cette région qui est un peu, comme on l'a dit un peu avant... très effrayante et très mystérieuse.
Yes. Also, I think that stories in the South have bizarre elements, sort of strange characters, the sort of things are not as they seem in the surface. And you have some stories in France that are of the sort of small town, you know, with the sort of strange, unique characters. And that is similar as well to what this kind of literature is, which you see in our books, the sort of weird people in town.
Et un autre élément, c'est qu'il y a toujours des gens un peu bizarres. On a aussi des histoires comme ça de petites villes ou en apparence tranquille, mais c'est pas si tranquille.
Maybe donc, like Guy de Maupassant in a certain way, the little town with the.
Oui. Donc des petites villes tranquilles où les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. En fait, c'est un peu ça le sud, c'est que les choses en apparence ne sont pas ce qu'elles sont vraiment. Et typiquement dans le livre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec le père de Ethan, avec tous ces éléments.
Ok, the other question.
Oh, yeah, and the other question was... yes, that's the question.
Juste avant, une autre. Juste avant, est-ce que la guerre de sécession, c'est une blessure encore aujourd'hui pour les Américains? Ouais.
So is a secession? Civil war. Civil war is still like very... it's still very important.
Depends on where you are. My husband is from California, and he didn't know anything about the Civil War, which I was horrified by. In the South, in the American South, they take it very seriously. They study it. They have like special textbooks, and in the movie, they dress up. It's called reenacting. They dress up and they pretend to fight the battles of the war all over again. It's very strange. Yeah. And they do it like on the weekends for fun. And on the East Coast, you spend a lot of time studying about the Civil War because it links to the American Revolution and also the economy in the country at that time. Because when the South lost the war, it had a lot of very... like bad effects, like a depression, an economic depression in the South, because all of a sudden, you know, like factories closed and all these things happened. So that part, they also talk about that part of history because it kind of changed the way things were going in the country. So, but no one takes it as seriously in America except for the people in the South. They're like my family, the old people are very serious about it. Like I grew up farther north and near in Washington D.C. You know, the capital of United States, and I don't dress up and act out the battles or anything. My cousins do, but I don't do that. That's very strange.
Donc ça dépend beaucoup de là où vous êtes. Son mari vient de Californie et il ne sait rien de la guerre de sécession, donc c'est un truc qui l'horrifie, pour reprendre ses mots.
Doesn't want to know that I told everyone that.
Mais on ne va pas le dire à son mari, parce que ça va rester entre nous. Et par contre, dans le Sud, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux. Comme dans le film, ils reconstituent les batailles, des fois pour s'amuser le week-end. Ils ont des cahiers d'histoire spéciaux pour apprendre cette période. Donc c'est quelque chose qui était encore très présent, notamment parce que ça a changé l'économie du pays, des États-Unis. Donc l'équilibre des forces, puisqu'il y a des usines qui se sont fermées, il y a des esclaves qui sont partis, donc de la main-d'œuvre. Donc ça a vraiment changé le paysage économique des États-Unis. Des régions qui étaient très puissantes ne le sont plus devenues. Et ça fait comme une petite crise économique dans le Sud. Donc toute la côte Est est plus concernée, puisque c'est là que ça s'est passé. Donc c'est quelque chose qu'ils apprennent. Après, elle vient de Washington, D.C. Elle ne s'est jamais habillée comme ça. Alors que par contre, dans sa famille, les générations d'avant, c'est très présent. Et ses cousins sont très impliqués dans la reconstitution de la guerre.
Il y a dans la série de nombreuses références à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est un...
So there are a lot of references to Kill the Mockingbird in the saga.
Donc j'imagine que ce n'est pas par hasard, mais c'est un livre que j'adore aussi, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps.
Et le film.
Le film aussi, Du silence et des ombres en français.
Margie loves the film.
Gregory Peck.
C'est... un chef-d'œuvre qui se trouve en DVD, je vous signale, très facilement, Du silence et des ombres.
A really good film from a book, which is like, that's one of the only ones that we always loved.
Il est très rare, moi, que j'aime autant une adaptation cinématographique qu'un livre que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'aime autant l'un que l'autre.
So she just wanted to know a little bit more about the references of To Kill a Mockingbird, and she's really into the movie. because that's one of the only adaptations that she liked. Like, that's one of the only times the book and the movie are as good as the
other. Margie loves that, thinks the movie's as good as the book, too, but I think it's because of Gregory Peck.
Donc yeah, Margaret aime beaucoup le film aussi.
There's a book that we reference a lot that is the To Kill a Mockingbird, and the reason we talk about it so much is that my daughters and the seven people we were writing the book for were reading it in school. It's a book that all teenagers in America have to read in school, so they all hate it, because if you have to read a book, you hate the book. That's the saying, having to read a book is almost as bad as not having a book to read. So we set out to prove to the teenagers that it was the best book ever written, not the worst, most boring book ever written. So you see, and it also, the themes matched up with what we were doing.
And it has a lot of, you know, it deals with a lot of, like, those issues in the South. And so it's, I think that's why they teach it. And if you see the movie or you read it on your own, it's a great story. But I think when you have to read it like chapter by chapter and then like answer a little test about it, it's not quite as fun.
Donc le livre Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur, c'est un livre qui est en lecture obligatoire à l'école. C'est un peu Nos Misérables ou ce genre de titre. Et donc forcément, les ados pour qui elles écrivaient le détestaient. Et donc quand elles ont écrit, elles se sont dit « Non, mais on va leur montrer que c'est quand même une des meilleures histoires qui ait jamais été écrite ». C'est aussi une histoire qui en dit beaucoup sur l'histoire du Sud, qui a des résonances avec l'histoire de 16 lunes. Et donc, elle voulait vraiment leur montrer que c'était un livre qui pouvait aussi être actuel et que ce n'est pas juste un livre à lire et à répondre des questions chapitre par chapitre, comme on fait avec Nos Misérables. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elles y font beaucoup référence, parce que c'est un de leurs livres préférés.
C'est un livre donc, qui est disponible en livre de poche, d'ailleurs. L'auteur est Harper Lee. Nous l'avons sur table. C'est un livre qui dénonce le racisme, donc à travers le regard d'une petite fille. C'est un livre qui dénonce l'hypocrisie aussi. Et notamment dans 17 lunes, si je ne m'abuse, j'ai trouvé que la critique sociale, la critique de cette petite vie dans de petites villes étouffantes, avec les secrets, l'hypocrisie, la sensualité dont on rêve et puis en même temps à laquelle on refuse d'accéder, que tout ça était très, 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 très bien rendu par votre univers, par l'écriture.
So, To Kill a Mockingbird is about fighting racism and it's from the point of view of a little girl. And it's also denouncing the hypocrisy of some places back in South. And she found that in 17 Moons, so the second book, that there's also that kind of denunciation and that you can feel that Esan is struggling with the city.
That was intentional. Yeah.
Okay.
We did that on purpose. Yeah, we did it on purpose because the kids reading the book was written a long time ago, like in the 50s. It's old. And they were saying this book is old and the things that it talks about don't happen anymore. So we shouldn't have to read it. It's because it's not relevant. And so we were trying to show them that even though there was not the same type of racial discrimination anymore in the United States, at least not sanctioned, that there's other kinds of discrimination. Yeah. And we used, if you're a caster, being magical was something to be discriminated against, or different types of supernaturals in the series. So we did it on purpose to kind of show them that that kind of thing is still relevant.
But it also... Oh! Wait, no, I now have to do that. It also tied into the identity. I mean, obviously the theme of our book is what we say, I don't know what the translation is, claim yourself, but be. So part of the issue isn't just, about those issues on a race level, even a magical race level, but it's about don't be afraid to be who you are. And that's part of the theme of Mockingbird as well, is it's all about stand up for who you are. Lena has to get okay with who she is. Ethan, Lena wants to be normal. Ethan wants to leave and be somewhere else. And it's all about kind of figuring out who you are and not being afraid to let it show. And I think that's what those two books had in common.
Donc, le fait que dans le deuxième livre, il y ait aussi cette dénonciation de la discrimination et de l'hypocrisie de la ville, c'est fait exprès. Elle voulait montrer... En fait, les jeunes pour qui elles écrivaient trouvaient que « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », c'était vieux. Ça datait des années 50 et que du coup, c'était plus du tout actuel et que ça se passait plus du tout comme ça. Et elle voulait leur montrer que, ben, si, et pas que dans le Sud, qu'il y avait encore de la discrimination et pas forcément raciale. Elles ont pris l'exemple de la discrimination par rapport à la magie, c'est-à-dire que Léna n'est pas intégrée et qu'elle se fait rejeter parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Et donc, elle voulait montrer que ça existait encore. Et plus que ça, elle voulait montrer qu'il fallait être fier de qui on est, de ne pas avoir peur d'être différent, que ce soit parce qu'on est magique ou parce que, pour plein de raisons, il faut juste être fier de qui on est. C'était ça le message qu'elle voulait faire passer avec leur deuxième livre.
Good job.
Donc le job est bien fait, je trouve, y compris en ce qui concerne les rapports garçon-fille dont vous parliez au début. Vous vouliez un garçon en narrateur, une fille qui pleurait pas, etc. Et je trouve que c'est important aussi de faire passer ce message. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes dans la salle. Mais je sais qu'il y a des lecteurs, en tout cas garçons, donc, qui ont adoré cette histoire. Ethan, c'est un personnage moi, que j'ai adoré. C'est le garçon idéal qui est là, qui est sensible, qui est courageux, mais qui a ses propres peurs. Et elle, c'est aussi un personnage formidable. Est-ce que c'est deux personnages qui représentent des ados que vous connaissez ou comment vous percevez les ados aujourd'hui qui sont autour de vous ou en général?
So one of the other theme in the book is the relationship between boys and girls. Mm-hmm. She thinks that Ethan is really ideal. Mm-hmm. Like he's brave, but he also admits that he has his own fears. And Léna is really strong, but she's also struggling with who she is. And so she wants to know how come that you were so realistic with your character. Like, do you know teenagers like Ethan and Léna? Or
well, we,
what do you think about teenagers in general?
I mean, you know, Margie has three daughters, obviously, and all their friends, and I taught teenagers. And we also have, I have four brothers, and Margie has two brothers. So, and neither of us, I have a sister, but she wasn't born until I was in college. So neither of us grew up in the house with women. We grew up in the house with lots of boys. So it was easy to write from Ethan's point of view and understand that a lot of times, you know, if you don't have brothers, you don't realize that boys have a lot in common with girls. They do have fears and they're insecure and they worry about what girls think just as much as girls worry about them. But usually in books, they don't show that. They try to make the boys seem really cool and perfect, and only the girl cares if he likes her. And we didn't want to show that. We wanted to show that, you know, a boy can be, you know, regular and have insecurities too. And just like a girl can be the strong one and rescue herself, and sometimes she rescues Ethan. You know, like those aren't things that necessarily go with gender. Can be for either person.
Okay. Donc en fait, donc Margaret a trois filles qui étaient ados au moment du livre, mais elle a aussi vécu avec deux frères. Camille a quatre frères, donc les garçons, elles connaissent. Elles n'ont pas grandi avec des filles, mais plutôt avec des garçons. Et donc elles se sont rendues compte que quand on est en frère, on se rend compte que bah, les garçons ont aussi des choses en commun avec les filles, qu'ils ont les mêmes peurs, qu'eux aussi se posent des questions, et que c'est pas du tout quelque chose qu'on montre dans les livres, parce que dans les livres, c'est toujours le mec un peu cool, et il y a que la fille qui se pose des questions et qui se prend la tête pour savoir si oui ou non il aime bien. Et là, justement, c'est un peu inversé. Des fois, c'est Léna qui va prendre la défense d'Ethan, c'est Léna qui va même le secourir plusieurs fois, et donc c'est pour montrer que, bah, mine de rien, on n'est pas si différent que ça.
The other part of that question, were there teenagers we based them on? No, Léna is something like what we were like in terms of we both wrote bad poetry. We both, you know, were sort of fringe and, you know, not very popular. We both were different. We both loved to read. So we more identified with Léna. I identify also quite a bit with Ethan. Just in real life, I'm shy. I don't often... say as much as I'm thinking, which is more what he's like in the book. But the other thing I wanted to say is that the actor who plays Ethan in the film is exactly like that in real life. It's so cute. He's such a good boy. He carried a book with him all around his press tour. You know, it was uncanny the degree to which they were similar. So we were very happy that the Ethan that was immortalized on screen was so much like him in real life.
Okay.
Except for a little shorter.
Alors, en fait, donc la deuxième partie de la question, c'était est-ce que c'est des vrais ados qui avaient inspiré Lena et Ethan? En fait, Lena, c'est un peu un combiné de Camille et Margaret quand elles étaient plus jeunes. Comme elles avaient l'impression d'écrire de la mauvaise poésie, d'être pas forcément très populaire, d'être un peu à l'écart, de se poser plein de questions. Donc, Lena, c'est un peu d'elle quand elles étaient jeunes. Il y a aussi un peu d'elle dans Ethan, sur le côté timide, intellectuel, qui lit tout le temps. Et là-dessus, Margaret voulait préciser que pour elle, l'acteur qui joue Ethan, c'était exactement... En fait, Ethan... et l'acteur sont exactement pareils dans la vraie vie. Donc c'est assez marrant pour elle de voir comme ils se ressemblent. L'acteur est juste un peu plus petit.
J'en reviens à ma question que, en deux parties de tout à l'heure, je ne l'ai pas laissée tomber. Vous avez décidé donc pour votre prochain projet de travailler en individuel. Donc est-ce que vous pouvez nous parler chacune de ces projets à venir et d'autre part... pourquoi en individuel et plus en duo? Et est-ce que vous travaillerez à nouveau ensemble? Est-ce que vous couvrirez de mots communs le même tableau à nouveau?
So we're back to the second question first. We're going to talk about the future. And so now you both have individual projects. First, can you tell us a little bit more about your project? And also, you're going to write solo. Why not in duo anymore? And are you going to work together again in the future?
We never say never. We have a lot. Actually, we have a million more stories in the universe. Beautiful Creatures. But we are mostly focused on the series we have to write ourselves right now.
Because we have to.
Yes. Yeah, so we've promised ourselves not to talk about doing any more Beautiful Creatures together until we get our actual work done that's due right now, which is a little late. So we have to get to work.
Donc, ne jamais dire jamais. Elles ont plein d'idées, voire des millions d'idées sur la saga de 16 à 19 lunes. Elles ont encore plein d'histoires à couvrir. Maintenant, elles sont toutes les deux en retard sur leurs projets individuels. Elles se sont lancées dans d'autres séries, chacune de leur côté. Et donc, elles préfèrent se dire qu'il faut déjà qu'elles finissent celle-là avant de penser à d'autres projets, peut-être ensemble ou peut-être solo.
But we still are. We've been friends for 10 years longer than we've been writing partners.
Before we were writing.
So we still... talk about each other's books all the time, and we read each other's projects. Her new book is very good. Don't worry.
This is good practice for her because she's going to go on tour in the United States in about 1 month. So you need to tell us what your book is about. You need to practice.
Bon, ne vous inquiétez pas, elles sont toujours amies. Elles étaient amies 10 ans avant de commencer à écrire ensemble, donc ça s'arrête pas. Elles se font lire leurs projets mutuels. Margaret trouve que celui de Camille est très bon. Camille trouve que Margaret devait s'entraîner à pitcher le sien parce qu'elle part dans une tournée aux États-Unis dans un mois, donc c'est un bon entraînement pour elle que de vous raconter son prochain livre.
Margaret thinks Cammy's book's really good. Cammy thinks Margaret needs to practice.
She needs to practice talking about her book because she doesn't like to tell anyone about it.
Okay, so my new project is called Icons. I have these for you. That's the titre aux États-Unis. Je pense que ça serait le même ici, en France aussi. Et Icons, it's a histoire un peu romantique, futuristique. Aux États-Unis, chaque roman is on a different continent. Je ne sais pas, how do you say continent? I don't know. You
can continent.
You can explain. translate my bad friend.
Bon, donc vous avez compris la première partie. Donc son prochain livre, c'est Icon. Ce sera Icon en français aussi, sans doute. On est encore en train de discuter, mais a priori, ce sera ça. Et chaque histoire se passe sur un continent différent.
Yeah. And so the first one was États-Unis, California Sud. It's a story of 4 teenagers who have to solve the mystery of their past in order to sort of save their world in the future. And each one of them, it's a strange world where the thing they discover about themselves is that they their emotions are so powerful that actually their emotions can kill. So there is there is a thing they have to figure out about themselves. You can see why I'm so bad at this. That they have to figure out about themselves in order to sort of piece together what they themselves need to do in the future. So it's a sort of a conspiracy story. It's a love story. It's
science fiction.
It's a sci-fi science fiction. And it's really what it's about is emotions. It's about big, big feelings. Feelings that are so big you think they'll destroy you. And it's sort of a world where your feelings are either going to save you or they're going to destroy you. And that's what they're working out.
Well done.
Yes, that's a nice catchphrase.
That part at the end was
the
perfect.
End? Okay. we'll practice again at the end. So let's see, in the future, I'll say love story?
You say it is a futuristic love story.
Yeah.
About
four teenagers
that are trying to solve the mystery of their past in order to save the future. Okay,
how do you handle the emotions?
That's your log line, and then you say, and they find out that in their world, as you said, their emotions are so powerful that they can destroy them, mm-hmm. or they can use them to destroy mm-hmm. something else. Something else that's mysterious that you can't tell them about.
And the other thing is it's during there's a sort of alien occupation that we don't see. So they're called the Lords. And so the book is also
about
humanity.
That's the futuristic part.
Humanity. Okay. Just don't even translate that.
Okay.
Just tell them it was a critique.
Thank you, girls.
A critique.
Donc en fait l'histoire, c'est donc quatre adolescents qui doivent chercher un peu dans leur passé, qui se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs et que leurs émotions peuvent tuer. Donc c'est un peu flippant. Et donc en fait ils doivent se mettre ensemble pour résoudre le mystère de leur passé, de leurs origines, pour comprendre et puis pour arriver à contrôler leurs émotions. Donc, en gros, la phrase d'accroche de Maggie, c'est que vos émotions, c'est surtout une histoire d'émotions, d'émotions qui sont si fortes que soit elles peuvent vous détruire, soit elles peuvent détruire quelque chose d'autre. Ce à quoi Maggie ajoute quelque chose d'autre dont on ne peut pas vous parler puisque c'est un mystère. Alors, ajoutez à ça qu'il y a, il y a aussi une invasion d'extraterrestres et je pense que si avec ça vous achetez pas le livre, c'est que je suis une très mauvaise traductrice.
Mine is in the United States. It's called Unbreakable. It's not. Margie's is coming out in like 1 month. Mine does not come out until October in the United States. So I don't know what it will be called here yet. I don't think Hesh-Chad knows either. But it's called Unbreakable, and the series is The Legion. It is also supernatural, but it is not Southern Gothic. It is a story of a girl whose mother dies, and she finds out that her family is part of a secret society that goes back like 200 years, and they're responsible for protecting the world from a demon. But again, like the aliens, you don't see the demon. It's really about... these, you know, five kids that are thrown together and they know different amounts about the past and this secret society and how to protect themselves from, there's ghosts in the book and kind of supernatural entities. And this takes place, it starts in Washington, D.C., where I'm from, and this takes place in the northeast of America. So like... Maryland, Washington, D.C. The second one goes up to Boston. So it's like that. It's a totally different part than the South. And one of the things that's very different about it is, you know, Margie's is interesting because each book takes place on a continent. In my book, there are a lot of haunted locations that are real places in America. I'm not going to any of them because I'm big chicken. But sometimes some people can go there and those weird, like those supernatural TV shows, like, you know, those shows like Ghost Hunters?
Yeah.
They go to the places and tape it, but I'm too scared to watch it.
Donc, alors, le livre de Margaret sort dans un mois aux États-Unis. Il sort en fin d'année en France. Le livre de Camille s'appelle Unbreakable pour l'instant aux États-Unis, mais comme il sortira qu'en 2014 en France, on ne sait pas encore comment il s'appellera. Mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui découvre que sa famille fait partie d'une société secrète, qui remonte à 200 ans en arrière. Donc, il y a toute une question sur comment faire partie de cette société, d'où ça vient. Il y a aussi des histoires de fantômes, puisqu'elle se rend compte qu'il y a des endroits qui sont hantés. Donc, il y a plusieurs adolescents qui vont se mettre ensemble pour, pareil, essayer de comprendre le pourquoi du comment de cette société secrète et des fantômes. Là où Margaret place son histoire dans des continents différents, Camille, elle l'a placée dans des lieux qui sont hantés aux États-Unis, qui sont connus pour être hantés. Elle n'y est personnellement jamais allée parce qu'elle se dit un peu poule mouillée, mais c'est des lieux qu'on peut retrouver dans des émissions comme Les Chasseurs de fantômes qui passent sur le câble à des heures indues et qui enregistrent en fait, et où on voit qu'il se passe vraiment des choses bizarres. Donc voilà, c'est deux univers complètement différents.
I think, once again, we're both interested in powers and power. We're both interested in romance.
Mystery.
But we both wanted to do something really, really different and different from what we've done together to sort of take a break and, you know, not try to sound the same or duplicate what we did before. So
because the Beautiful Creatures series is very special to us, but also, like we said, we don't know if we would go back to it, and if we go back to it, obviously we would do that together. So we wanted what we do together to be really different than what we do apart.
Donc, comme vous le voyez, il y a quand même des thèmes qui reviennent, la romance, le supernaturel, le surnaturel, le supernaturel, ça n'existe pas. Les mystères aussi, mais elles ont quand même voulu que ce soit des projets très différents de la saga 16 lunes parce que déjà elles veulent pas que ça sonne de la même manière quand elles présentent les projets, elles veulent aussi explorer d'autres choses. Et puis comme elles ne sont plus ensemble, elles voulaient que leurs projets solo soient très différents pour aussi prendre un peu une pause par rapport à Sublime Créature et puis parce que elles ont chacune leurs univers.
Good, well done.
Bien, j'ai une mauvaise nouvelle, le temps passe vite. Donc, je vais vous laisser poursuivre vos conversations en privé avec Camille et Margaret lors des dédicaces. Je voulais tous vous remercier d'être venus nombreux et d'être aussi attentifs. Je voudrais remercier les éditrices de Black Moon, bien sûr, d'avoir permis cette rencontre. Et puis, évidemment, Camille et Margaret, qui ont fait la preuve qu'elles pouvaient aller au bout d'un projet. Et donc, on attend les autres avec grande impatience. Merci beaucoup à vous deux.